soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes toujours dans la période de la Pentecôte. Alléluia. Nous nous rappelons qu'ici, nous avons chanté, dansé et nous avons dit merci à Dieu qui nous a donné son esprit. Et nous sommes toujours dans cet élan de l'esprit. Quand vous regardez, par exemple, la couleur liturgique de ce jour, c'est le rouge qui représente la flamme du Saint-Esprit. La Bible nous dit que des langues de feu sont descendues sur les disciples. Donc nous sommes toujours dans la flamme, dans la chaleur de l'Esprit-Saint. Et en ce jour, dans cette chaleur, l'Église nous donne non seulement de lire trois textes, mais de s'édifier à partir d'un thème. Négocier et acheter le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Faut dire avec moi, quelqu'un a beaucoup d'argent. Je n'ai rien entendu. Acheter. Non, négocier et acheter. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, est-ce que tu peux te lancer dans cet exercice? Il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer dans cet exercice. Et il y avait un monsieur dans les textes que nous avons lus, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de ce monsieur? Je n'ai rien entendu. Simon. La Bible lui a donné un autre nom. Simon le magicien. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans la période de la Pentecôte et plus précisément dans le temps de la persécution où le Saint-Esprit est descendu et les disciples ont commencé à faire l'œuvre et les gens ont commencé à tuer les disciples. Nous nous rappelons du martyre d'Étienne. Comment est-ce que Paul, en ce moment qui s'appelait Saul, était tout heureux quand les gens étaient en train de lapider Étienne. La Bible dit que par la suite, Saul est allé prendre des lettres, il est rentré dans des églises pour arracher les croyants et les jeter en prison. Dans cette même période-là, où se vivait la persécution, il y a eu dispersion en même temps des disciples. Alors, il y a deux groupes. Il y a ceux que nous appelons les apôtres, que Jésus même a appelé les apôtres, c'est-à-dire les disciples qui étaient avec Jésus, les 12 précisément, qui l'ont suivi et à qui il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller et de faire des nations des disciples. Ceux-là, les 12, il y a eu un qui n'était plus au milieu de Judas et il est resté 11. Voici les apôtres. Maintenant, les apôtres avaient aussi des élèves. En tant que des membres à l'affermissement, nous savons que quand on dit disciples, ce sont les élèves. Donc, les apôtres ont eu aussi des élèves que la Bible appelait les disciples. Et lorsque la persécution est survenue, les disciples ont fui Jérusalem. Bien-aimés, il faut que nous allions pas à pas. Les choses deviennent intéressantes. Jésus, avant la montée, quand il a appelé ses disciples, les apôtres, qui les a envoyés en la Galilée, avant qu'ils ne montent, il a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes disciples. » N'est-ce pas? Depuis où? Depuis la Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes disciples depuis la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, il est parti. Le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à faire des miracles, à guérir des malades. Ils étaient à Jérusalem. Ils ont oublié qu'ils devaient aller depuis la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, tout était bien, ils étaient là. voici que le vent de la persécution a soufflé. Il fallait maintenant qu'ils fuient. Ils ont fui, ils sont partis où? Dans la Judée. La parole de Dieu s'accomplit. Les disciples, les apôtres, eux, sont restés dans Jérusalem. Les disciples sont partis dans la Judée, dans toute la Judée. Et l'œuvre a commencé. La Bible dit, quand ils partaient, ils prêchaient. Et parmi eux, il y avait un monsieur qu'on appelait Philippe. C'était un diacre. Un diacre, la Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Parce que les apôtres ont demandé qu'on choisit des gens craignant Dieu et remplis du Saint-Esprit pour assumer le rôle du diacre. Et parmi eux se trouvait Philippe. Philippe est parti dans la Samarie. Philippe, lui, il a laissé le côté Judée. Il est parti dans la Samarie. Jésus a dit, vous serez mes disciples depuis la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dans cette petite partie, nous avons déjà trois endroits cités par Jésus qui ont été touchés. La Jérusalem, la Judée et la Samarie. Alors, Philippe se rend en Samarie et il commence à parler de Dieu. Et les Samaritains étaient touchés. Les Samaritains ont accepté le Seigneur. Les Samaritains ont commencé à se faire baptiser. Les Samaritains ont commencé à abandonner tout ce qui était mauvaise vie. La repentance était versée, comme on pouvait le dire, dans la Samarie. Et parmi tous ceux qui donnaient leur vie à Dieu, tous ceux qui venaient au baptême, se trouvait un monsieur qu'on appelait Simon le magicien. Alors, Simon le magicien, comme son nom l'indique, c'était un magicien qui faisait beaucoup de miracles. La Bible dit qu'il se prenait pour quelqu'un d'important. Il se trompait lui-même. Il pensait qu'il était quelqu'un d'important. Il envoyait les gens à penser qu'il était quelqu'un d'important, mais le plus important arrivait. Simon, le magicien, a compris qu'il n'était rien. Simon a accepté de se faire baptiser. Lui aussi est venu au baptême pour dire que lui aussi a accepté Jésus, parce que c'est quand on accepte Jésus qu'on vient au baptême. Donc, il a accepté Jésus, il est venu au baptême. Alors, les nouvelles de la Samarie sont allées jusqu'à la Jérusalem. Et les apôtres ont fait venir Pierre et Jean pour voir ce qui se passe à la Samarie. Ils arrivent, ils découvrent qu'effectivement, dans la Samarie, il y a des vies qui ont changé. Mais ce n'est pas la première fois que les Samaritains acceptent de donner comme ça leur vie à Jésus. Souvenez-vous que la première fois, c'était avec qui? C'est parti de qui? La première fois, c'est parti de qui? De qui? La femme samaritaine. Quand elle a rencontré Jésus, quand elle a parlé avec Jésus, elle était convaincue. Elle est allée dans la Samarie. Elle a dit à ses parents, les Samaritains, venez voir cet homme qui m'a dit qui je suis, tout ce que je suis. Ne serait-il pas le Christ? Et les gens ont fait venir Jésus. Quand ils ont entendu Jésus et qu'ils étaient convaincus, la Bible dit qu'ils ont demandé à Jésus de rester avec eux. Et Jésus est resté avec eux pendant des temps, avant de reprendre la route. Vous voyez que les Samaritains avaient le cœur déjà ouvert. On pouvait dire, un champ mûr. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, toujours dans ce texte de la femme samaritaine. Il dit, n'avez-vous pas dit qu'il reste encore 3 mois avant la moisson? Mais levez les yeux, voyez la moisson, les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Les Samaritains avaient déjà le cœur qui était disposé pour le salut, pour recevoir Jésus. Et cette fois-ci encore, Philippe se rend à la Samarie et les Samaritains sont prêts. Ils acceptent le Seigneur. Pierre et Jean arrivent dans ces lieux, ils découvrent que les Samaritains ont donné leur vie à Jésus. Seulement qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur imposent donc les mains et reçoivent le Seigneur. Je voudrais faire une petite parenthèse. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu notre baptême, donc on se pose la question, est-ce qu'on a reçu, est-ce qu'on n'a pas reçu? Les quelques textes que j'ai lus m'ont fait comprendre qu'il y a un peu d'exception ici, une petite exception. Vous savez, les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de cohésion entre eux, il n'y a pas d'amitié. Les deux ne se parlent pas. parce que les Juifs prennent les Samaritains pour des non-croyants. Pour eux, les Samaritains sont des païens. Alors, Dieu passe par cet événement d'imposition des mains pour les mettre ensemble, pour permettre à ce que les Samaritains et les Juifs soient un, à partir de la main des apôtres qui sont posés sur leur vie, sur leur tête, pour devenir des chrétiens, pour qu'ils comprennent que entre eux et les Samaritains, un seul élément les lie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus rien d'autre. Ils ne sont rien sinon Jésus qui est tout et tout pour eux. C'est à partir de là que le Saint-Esprit, c'est comme deux personnes ce matin, papa, comment le disait, on vient prendre Saint-Saint, monsieur qui est devant, madame qui est derrière, ou bien les deux hommes, bien les deux femmes, ne se parlent pas, pourtant ils prennent communion et puis ils s'en vont s'asseoir. Et ils ne se parlent pas. Dieu, qui sait qu'il y a un problème entre ces deux, passe par un événement pour les mettre ensemble. Les mains des Juifs sur la tête des Samaritains. Mais ce n'est pas que les Juifs sont supérieurs aux Samaritains. Mais au travers des mains des Juifs, là, c'est Dieu lui-même qui vient pour les mettre dans la même famille, dans le même lot des enfants de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit pour marcher dans la voie de Dieu. Alors, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et puis, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour travailler. La Bible nous l'a dit. Les dons sont pour l'édification de la communauté. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parmi eux, notre ami Simon, le magicien, lui, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Lui, de manière spéciale. Parce que pour recevoir aussi le Saint-Esprit, il faut aussi la disposition de ton cœur. Il faut croire en Jésus. Parce que l'Esprit qui vient, ce n'est pas l'Esprit humain. Ce n'est pas l'Esprit d'un arbre. Ce n'est pas l'Esprit des eaux. C'est l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir Dieu, il faut te laisser tout entier. Les autres se sont laissés tout entier. Simon de Cyrène, lui, il s'est mis de côté. Parce qu'il comptait sur quelque chose. Alors quand il a vu, il s'est dit que si les hommes ne peuvent pas lui donner ça gratuitement, lui peut acheter. Il a l'argent. Il n'est pas n'importe qui. La magie qu'il a faite, beaucoup de gens sont venus vers lui. Beaucoup de gens ont payé. Quand il doit donner les paroles, les prophéties, quand il doit guérir des malades, quand il doit amener des gens à avoir du travail et autres, on le paye. C'est un magicien, nous connaissons les magiciens. Ils quittent leur pays et ils viennent dans d'autres pays pour faire la magie. On les paye. Même à l'école primaire, on dit le magicien vient. On nous prenait 25-25. Oui. On nous prenait 25-25. Mais ce qui était intéressant, c'est que après nous avoir pris nos 25-25, on faisait la chose à l'air libre. Donc ceux qui n'avaient pas payé aussi voyaient. Nous, ça nous faisait mal parce que nos 25 francs sont partis. Donc, on payait. Simon le magicien avait l'argent. Donc, il pouvait proposer l'argent pour acheter le Saint-Esprit. Il demande aux apôtres de lui donner le Saint-Esprit qui va payer. Il négocie pour acheter le Saint-Esprit. Mais, chose intéressante, c'est la parole de Pierre. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Une parole de malédiction. Que ton argent périsse avec toi si tu penses que c'est à prix d'argent qu'on peut payer les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Le Saint-Esprit qui est donné, on dit c'est donné. C'est un don. C'est Dieu qui donne. Et même quand il a donné son fils Jésus, on n'a rien payé. Ce n'était pas parce qu'on était juste que Dieu était content parce qu'il a trouvé des gens justes dont il donne son fils. Non. C'est parce qu'on était pécheurs, mauvais, vilains de cœur. Donc, on n'avait rien pour attirer l'attention de Dieu. On n'avait rien pour lui plaire quand il a fait venir son fils. Quand il a donné son fils. Donc, les dons de Dieu ne sont pas payables. C'est donné gratuitement. C'est ce que Simon n'a pas compris. Et Simon voulait acheter. Là, le thème dit négocier et acheter le Saint-Esprit. À quel prix? À quel prix? Le prix ici, pour Simon de Cyrène, c'est la malédiction que Pierre a prononcée sur sa vie. C'est cette parole que Pierre a prononcée. Si tu penses que c'est les dons de Dieu sont négociés alors que tu périsses avec ton argent. Bien-aimé, il y a aussi Pharaon qui n'avait pas compris une chose en son temps. Dieu a envoyé Aaron et Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Dieu lui-même il a dit à Moïse que Pharaon va endurcir son cœur. Mais lui va l'aider à bien endurcir ce cœur-là. Et voici que ils s'en vont pour parler de la part de Dieu. Pharaon endurcit son cœur. Dieu lui dit, quand Aaron jette son bâton, le bâton devient serpent. Pharaon, lui, il est tout à l'aise. C'est une histoire de magie. Si votre Dieu est magicien, moi aussi j'ai des magiciens. Si votre Dieu peut opérer des miracles, moi aussi j'ai des gens qui peuvent opérer des miracles. Les magiciens, les nécromanciens, les sages, venez. Ramassez tous vos bâtons, venez. Déposez. On va voir ce qui va se passer. Eux, ils ont déposé les bâtons. Et les bâtons sont devenus aussi des serpents. Alors le pharaon, comme on pouvait le voir dans son habit, mais voici, pour toi, il est devenu serpent. Pour moi aussi, il est devenu serpent. Si c'est une histoire de magie, on n'est pas égal. Si c'est une histoire de pouvoir, moi aussi, j'ai pouvoir. Donc, si c'est sur ça que tu vas compter pour me demander de laisser partir ton peuple, c'est que tu as menti. À quel prix? Avec Pharaon, c'est que tous les serpents de Pharaon ont été avalés par le seul serpent d'Aaron. Dieu a prouvé sa suprématie sur toute chose, sa supériorité. Pharaon a voulu se comparer. Dieu lui a fait comprendre qu'avec moi, il n'y a pas de comparaison. Moi, je suis au-dessus. Je m'élève au-dessus. C'est moi qui suis maître. C'est moi qui ai créé les bâtons. Et c'est moi qui ai créé les serpents. C'est pas parce que je t'ai donné un bâton que tu peux jeter. Ça va devenir serpent. Puis toi, tu vas faire ton mal. Et moi, je vais te montrer. Pharaon a compris. Je voudrais le voir dans quel état il était quand il a vu que ses serpents étaient avalés. Dans quel état? C'est sûr qu'il n'était pas arrêté comme ça en train de les regarder. Certainement qu'il était dans tous ses états pour se demander, mais qu'est-ce que ça signifie? Bien-aimé, quand nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, il n'y a pas de prix. On va aller pas à pas. La première des choses qu'il nous donne, c'est le salut. À partir de la mort et de la résurrection de son fils, ce salut, nous ne pouvons pas l'acheter. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons rien fait de bon quand il a fait venir son fils. Nous ne pouvons pas, même à la création, même quand il nous a créés, quand il a fini de créer tout, et puis il a façonné l'homme, et il a mis le souffle en lui, ce n'est pas parce que l'homme lui a dit, si tu me façonnes, si tu me crées, je ferai ceci pour toi. Tu n'existais même pas, comment ça tu peux faire marcher avec quelqu'un? Tu n'étais même pas dans l'ombre. C'est sa volonté qui t'a envoyé sur terre. Donc là, tu n'as rien payé. Son fils qui est venu, tu ne méritais pas, lui, mais il t'a donné. Mais au-delà de son fils, il te donne son fils et puis il te donne tout par-dessus. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le tout vous sera donné par-dessus. Le tout, c'est-à-dire ta santé, c'est-à-dire ta délivrance, c'est-à-dire ton argent, c'est-à-dire ton travail, c'est-à-dire le succès, c'est-à-dire ton mariage, c'est-à-dire tes enfants, c'est-à-dire ceci. Le tout qui t'est donné aussi t'est donné gratuitement. Tu n'as rien à payer. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas et qui partons, qui pesons l'argent pour aller devant des prophètes. Papa, c'est nous qui avons des papas, qui avons des mamans. Papa, pardon, prie pour moi, je veux avoir mariage. Papa, prie pour moi, je veux avoir enfant. Et on dépose cet argent. Ce n'est pas mauvais de faire des dons. Mais dans quel esprit? Quand nous regardons pour Simon, l'esprit il est clair. C'est pour acheter le Saint-Esprit. On n'achète pas. Puisque toi-même, Dieu a fait de toi enfant de Dieu. Ce matin encore, papa Ngoma l'a dit, c'est intéressant. Si l'Esprit de Dieu ne te dit pas que tu es enfant de Dieu, il faut revoir ta conversion. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler par prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ma soeur Florence, tu es un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui met dans ton cœur que toi, tu es enfant de Dieu. Il te convainc. Si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, c'est que tu ne l'es pas. Donc, si le Saint-Esprit t'a convaincu que tu es enfant de Dieu, le voile est déchiré aussi pour toi. Tu peux toi aussi aller devant le Père. Père, je veux enfant. Père, je veux travailler. Parce que c'est le tout qui te donne. S'il ne te donne pas, qui va te donner pour que tu puisses lui rendre gloire? Il dit, ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il faut qu'il te donne pour que toi, tu puisses partager, tu puisses lui rendre gloire. Il faut qu'il te donne pour que tu sois à l'aise quand tu vas l'adorer. Que quelqu'un d'autre en te voyant dise que véritablement tu as un Dieu. C'est aussi un griffe, un challenge pour Dieu de te bénir. Donc, s'il te donne, c'est gratuit. C'est-à-dire, toi, tu peux aller devant lui. Ce n'est pas mauvais que tu puisses appeler un homme de Dieu pour prier avec lui. Mais que tu ne lis pas ta vie, tu ne lis pas l'exaucement de tes prières à l'homme de Dieu vers qui tu vas. C'est ça. Tu ne dépends pas de quelqu'un, tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas de ton argent que tu donnes à l'homme de Dieu, tu dépends de Dieu. C'est Dieu seul, lui et lui seul. C'est ce que Simon n'a pas compris. Il a pensé que c'est son argent qui faisait la chose. Et nous le savons. Je l'avais dit un dimanche ici, où on a demandé à mon frère de parler en langue. Parce que c'est, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Donc il faut parler en langue. Et ils sont nombreux vers qui nous partons pour chercher comment est-ce qu'il faut parler. Mais ils vont nous enseigner comment il faut parler en langue. Il faut prendre même sur le net. Et puis, faut taper comment parler en langue. Ils vont te montrer. Ils sont nombreux qui sont là pour te montrer ces choses. Bien-aimé, tu vas beau parler ces genres de langues. Ce n'est pas fondé sur ce que Dieu dit. Tu es hors chemin. Ce que je vais te demander, sinon ce que je vais te dire, c'est ce n'est pas les signes extérieurs qui t'envoient au ciel. C'est quand tu as fini de parler en langue, est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie reflète la vie d'un enfant de Dieu converti, quelqu'un qui est converti, qui a changé réellement de vie, qui n'est plus dans les discussions folles, qui n'est plus dans les mensonges, qui n'est plus dans la tricherie, qui n'est plus dans la sexualité folle. Est-ce que ta vie a changé? C'est ça qui t'envoie au ciel. C'est Jésus-Christ. Et si tu dis que tu as accepté Jésus, on doit voir le fruit. C'est ce que nous voyons, le fruit, comment les signes de la vraie conversion. C'est ce que nous voyons, on doit voir le fruit. Le fruit de cette conversion, c'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, si vous dites que vous êtes repenti, on doit voir le fruit de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas de vouloir tout embrasser. Le jour où Dieu veut, il te donne les dons qu'il veut. Ou les dons, il te les a donnés, tu ne sais pas encore manifeste. Quand il va vouloir, il les éclate en toi pour que tu puisses le servir avec. Si tu ne le sers pas avec, c'est que tu fais fausse route. Mieux vaut ne pas savoir que tu as des dons, ou bien mieux vaut ne pas avoir des dons que de les avoir et puis ne pas les manifester. Jésus le dit. Et la version d'Arabie est intéressante à ce sujet. Le verset 22 et 23 de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Il dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, je me suis posé la question, comment un œil peut être méchant? Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? L'œil, ton œil, il dit c'est ta lumière. Parce que c'est à partir de l'œil qu'on voit. Mais si tu deviens aveugle, comment est-ce que tu peux voir? Mais au-delà de l'œil, il parle de nos personnes, de nos vies. Il parle de notre manière de marcher, de ce que nous sommes en réalité. Si nous sommes remplis de mauvaises choses, quand il dit que si ton œil est méchant, l'œil ne peut pas être méchant, c'est nous. Chez nous, on dit l'œil ne prend pas crédit, donc il peut voir partout. Mais c'est nous. Si nous sommes méchants, bien si nous sommes bons. Si nous sommes méchants, c'est que nous le sommes véritablement. Si déjà à l'extérieur, parce que l'œil voit l'extérieur, si déjà à l'extérieur nous sommes méchants, c'est que nos cœurs sont très méchants. Parce que ce que nous manifestons ne vient que de nos cœurs. C'est de nous. Les choses sont dans nos cœurs. C'est à partir de là que nous manifestons ce que nous manifestons, ce que nous vivons. Si je parle mal à quelqu'un, c'est que mon cœur est rempli de ces méchancetés. Il n'y a pas de douceur en moi. Si je dis que Dieu regarde au cœur et que je m'habille mal, c'est que mon cœur est mal habillé. Mon cœur n'est pas couvert. Si je dis que Dieu regarde au cœur, que moi je crois en Dieu. Et puis, excusez-moi, nous les hommes, avec le bout d'oreille et autres, parce que c'est la mode. Avec les dreads et autres, parce que c'est la mode. Il faut que nous revoyions. Parce qu'il y a eu un autre enseignement ici, toujours sur les signes. Le changement de comportement. Parce que quand tu reçois le Seigneur, il y a un travail qui se fait sur toi. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le travail. C'est la parole de Dieu que tu as reçue, qui est le socle de ta conversion. C'est cette parole-là qui fait le travail. Le problème, c'est que quand ces paroles sont en train de faire le travail, nous refusons que le travail aille jusqu'au bout. Soit que nous l'arrêtons avec nos raisonnements, avec nos pensées, avec nos paroles ici et là, soit que nous ne lui laissons même pas de commencer quoi que ce soit. Nous partons à l'église et c'est fini. Pour tout enfant de Dieu, il y a un changement, un véritable changement. C'est ce que Simon Pierre n'a pas compris. J'ai dit, non, Simon le magicien. Pourtant, il était baptisé. Et c'est en cela que nous trouvons des gens qui finissent de se baptiser puis qui sont dans les rues. Qui finissent de se baptiser puis qui abandonnent même l'église. Il était baptisé, il faisait partie de ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu le baptême. Passé par les eaux du baptême. Mais regardez ses pensées. Tout simplement parce que son œil est méchant, c'est-à-dire parce que lui-même, il n'a pas laissé Christ le façonner. Je ne veux pas arriver sur les points des hommes de Dieu qui s'en vont prendre les médicaments. Parce que je crois que nous n'en avons pas parmi nous ici. Et je crois que quelqu'un ne va pas penser à ça. Sinon, ça va aussi dans la même ligne droite que ce que Simon le magicien a fait. Nombreux qui paient le transport pour se rendre au Togo, au Bénin, au Cameroun, et au Burkina, et puis qui reviennent. Au moment où ils sont en train de prier, jettent la pochette. Et puis dès que la pochette touche quelqu'un, c'est fini. La personne, jusqu'à la délivrance. On est là et puis en même temps, on va te donner ton numéro de compte. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. La marque de ta voiture, là où tu es assis, on te donne tout ce que tu as porté jusqu'à en bas là-bas. Et puis on te donne la marque de ta voiture, de ta maison, de ton numéro de compte, le nombre de tes enfants. Comme un monsieur qui voulait arnaquer papa, il dit, je sais que votre femme, il voulait, comment on dit arnaquer. Et votre femme est pasteur. Ce que j'ai vu là, si je n'efface pas, quoi? Ça va détruire votre foyer. Papa m'a dit ça, il dit, chef, quand il a appelé encore, j'ai pris le téléphone, il dit, tu dis que c'est son frère qui t'a envoyé ça, il dit, oui, il dit, donc son frère, lui, il n'a pas aimé. Toi qui ne le connais pas, c'est toi qui l'as tellement aimé que tu ne veux pas que son foyer soit détruit. C'est bien, mon frère. C'est très bien, mais tes deux enseignants que tu demandes, non, on n'en a pas. Il dit, non, c'est tout ce qu'il faut pour acheter les logiciels. C'est une histoire de logiciel. Il dit oui. Il dit, ah, d'accord. Mais nous, on n'a pas 250 000. On fait comment? Il dit, non, non, lui, il ne peut pas faire autrement. Il dit, attends, je te dis la vérité. Tu as dit, sinon, si sa femme sait, le foyer sera gâté, non. Il dit, oui. Mais c'est sa femme qui est en train de t'appeler. Donc, sa femme sait déjà. C'est sa femme, là, pasteur, dont tu parles. C'est elle qui te parle. Donc, elle sait. Donc, le foyer n'a qu'à se gâter. Il faut garder. Ou bien faire ce que tu veux. Le foyer n'a qu'à se gâter. Et puis, il me dit, vous allez regretter vos paroles. Je dis, je mets le feu dans ta bouche. Toi-même, tu vas regretter tes paroles. Ils sont nombreux sur le net, là où nous sommes avec les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Et nous, on est sur toutes ces plateformes-là, en train d'écouter. On écoute quelqu'un. Je ne dis pas de ne pas écouter les messages qui passent sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a quelque chose dont tu as besoin à l'instant. Dieu t'envoie ça et puis bon, ça va t'aider. Mais arrivé au moment, on dépend de ces messages. On dépend tellement de ces messages. Et les hommes de Dieu qui nous livrent ces messages deviennent aussi des dieux pour nous. Sans nous en rendre compte. On ne peut pas passer une journée sans écouter leurs messages. On peut ne pas lire la Bible pendant une journée. Non, on peut ne pas méditer nous-mêmes. Ça ne fait rien. Parce qu'il y a le message de ce pasteur-là qui va passer. C'est vrai que tu n'as pas pesé l'argent. Mais d'une manière, tu as pesé l'argent sans t'en rendre compte. Parce que tu achètes des unités. Tu achètes les passes. Tu as aussi pesé l'argent. Faisons attention à tout ce que nous recevons, à tout ce que nous écoutons. Et ces messages sont, la plupart du temps, il y a une de mes filles qui me disait, quand vous prêchez, quand à l'église méthodiste, quand on prêche, c'est toujours le péché, le salut, le péché, le salut. J'ai dit, mais la première des choses que Jésus a fait, c'est de briser le péché pour nous donner le salut. Donc si je ne parle pas de péché, je ne parle pas de salut, c'est que je n'ai rien dit, parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Elle dit, oui, c'est vrai, mais il faut reconnaître que même quand on prend un test qui parle de péché ou bien de salut, le salut, ce n'est pas seulement le ciel, le salut, c'est comment est-ce qu'on peut faire aussi pour avoir le travail? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le travail? Et puis les tests bibliques sont remplis de ça. Dit, mais c'est vrai. Ça, ce n'est pas mauvais. Parce que jusqu'à ce qu'on organise une entreprise, c'est la parole de Dieu qui a fait. On a un chef d'entreprise, un quoi d'entreprise. Donc tout ça là, c'est la parole de Dieu. Mais le salut dont on parle, c'est d'abord ton âme. C'est à cause ça au niveau de l'église. On insiste dessus. Avant d'aller sur le plan où Dieu te donne tout par-dessus. La première des choses, c'est le royaume des cieux. Bien-aimés, cherchons réellement ce royaume. Ayons les yeux pour lampe, la véritable lampe dont nous avons besoin. Plongeons ces yeux-là dans la parole de Dieu. Acceptons qu'elle travaille nos cœurs. Acceptons de changer à partir d'elle. Acceptons de marcher et que quelqu'un nous dise, celui-là l'a changé, oh. Depuis qu'il va à l'église, c'est maintenant, il sait qu'il est chrétien. Quelqu'un n'a qu'à se moquer de nous, ça ne fait rien. Au contraire, quand on dit chrétien, là, c'est moquerie. Quand on dit méthodiste, c'est moquerie. Il y a beaucoup de sobriquets comme ça. Acceptons qu'on nous dise ces choses. On fera vivre nos âmes. On n'ira pas en enfer. Que de vouloir se conformer à ce que les gens disent pour ne pas qu'ils se moquent de nous et puis perdre nos âmes en enfer. Il y a que Dieu nous aime. Pour cela, Jésus s'est sacrifié pour nous, pour ne pas que nous mourions en enfer. Il a ouvert le champ, il a ouvert le chemin, il a ouvert la voie. Il dit lui-même, il est le chemin. Acceptons de marcher en fonction de lui. Sa parole, c'est notre boussole. Sa parole, c'est notre lumière, c'est notre lampe. Acceptons de vivre ces choses. Et voici, non seulement personne ne viendra nous corrompre, personne ne nous trompera, mais nous n'irons pas derrière ce qui ne vient pas de Dieu ou bien ce que Dieu ne nous a pas donné. Parce que les dons, Dieu donne à qui il veut. Et quel don il veut, à qui il veut. S'il ne m'a pas donné, je n'ai pas à aller chercher ça obligatoirement. Il n'a pas donné à Simon le magicien. Simon le magicien s'est levé pour aller chercher. Il ne t'a pas donné. Ce qui t'a donné là, manifeste ça. Il a donné à Simon le magicien de croire à Jésus pour être baptisé. Qu'il manifeste d'abord la foi. et le reste lui sera donné. Ce qui t'a donné, manifeste ça. Et lui qui sait quelle est ta capacité de rétention pour les autres dons, il saura te donner ce qu'il faut par la suite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur.